L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu, toujours pour partager sur la parabole du Samaritain avec Jonathan Junior Mambou.
Bonjour, que Dieu vous bénisse, vous qui venez de nous rejoindre.
Avant d'aller plus loin, frère, je voudrais t'inviter à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions.
Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps merveilleux que tu nous accordes. Seigneur, tu as dit dans ta parole, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Laisse que ce temps soit un temps merveilleux où tu vas nous donner ta sémence, ta vie pour l'éternité. Que la gloire, l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Jonathan, nous sommes toujours dans cette parabole du Samaritain. Qu'est-ce que tu peux nous dire encore aujourd'hui?
Nous prenons nos Bibles.
Toujours.
Je vais lire dans Ésaïe 21.
Ésaïe 21.
Verset 11. Nous sommes toujours dans cette parabole du Samaritain, cette parabole qui parle de cet homme qui était à Jéricho et qui était à Jérusalem et qui décida de quitter Jérusalem pour Jéricho. Mais lisons d'abord ce texte qui nous dit ceci. Je commence au verset 11. Oracle sur Douma. On me crie de Séir, sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond. Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Ce texte est très important et ce texte parle des réalités vraies qui existeront. La Bible demande, je veux dire, le Seigneur demande à la sentinelle, qu'est-ce qu'elle dit de la nuit? La nuit, c'est l'image de ce monde de péché aussi, ce temps obscur. Nous sommes pendant la nuit. Le Seigneur viendra pendant la nuit, le soir. La Bible dit, la nuit est avancée, le jour approche. C'est-à-dire, la nuit est avancée tout simplement pour dire que le temps s'est accru en ce qui est du péché. C'est-à-dire, le péché a pris de l'ascenseur et tel que on n'arrive pas presque à respirer, nous les chrétiens. La nuit est avancée, mais le jour approche. Le Seigneur revient. Et quand il est jour, c'est-à-dire, là, le soleil apparaît. Et on demande à la sentinelle, notre Seigneur, c'est lui notre sentinelle. Qu'est-ce qu'il dit de la nuit, de ce temps obscur, de ce temps où le péché a pris un volume extraordinaire? Regardez la réponse de la sentinelle. Le matin vient et la nuit aussi. C'est-à-dire, oui, le matin vient. Le matin, c'est-à-dire, l'enlèvement arrive. Et après l'enlèvement, il y aura la nuit, c'est-à-dire la grande tribulation aussi. En fait, ces deux événements sont des signaux qui nous avertissent. Sont des événements qui ne seront pas des événements joyeux. En fait, ce qui est vrai, la grande tribulation ne sera pas un événement de joie, mais l'enlèvement aussi ne sera pas un événement de joie pour tout le monde. Ceux qui vivront l'enlèvement, ils seront bénis, ils passeront des temps merveilleux avec les seigneurs. Mais ceux qui resteront et qui se rendront compte qu'il y a eu enlèvement, ben pour eux, l'enlèvement sera un malheur. Parce que bon, il y a eu enlèvement, nous sommes restés. Ce sera déjà des temps de tristesse, d'inquiétude. Et le Seigneur nous dire, le matin vient, la nuit aussi. Un peu pour nous avertir, attention, vous qui êtes à Jérusalem, marchez avec sagesse, attachez-vous à Jérusalem. Ne descendez pas à Jéricho parce que le matin vient. La nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. C'est-à-dire, si vous doutez encore qu'il y aura enlèvement, si vous doutez encore qu'il y aura après l'enlèvement des temps très difficiles qu'on appelle la grande tribulation, ben interrogez. Et Interrogez, c'est-à-dire priez. Demandez à Dieu. Dieu va vous le dire. Comment vous allez demander à Dieu? Par la prière. Vous allez le faire, mais lisez la parole. Vous verrez que le matin vient. La nuit aussi. Bien-aimés, nous qui sommes à Jérusalem, restons. Voilà pourquoi Jésus-Christ, on l'appelle l'étoile brillante du matin. C'est-à-dire l'étoile, la dernière étoile, elle ne disparaît que vers le matin. Ce sont seuls ceux qui sont en train de veiller qui voient cette étoile. Oui, et quand le soleil apparaît, c'est le jour. Le matin vient pour prendre les vrais chrétiens. Ces hommes-là qui se sont attachés à Dieu, qui ont abandonné tout pour plaire au roi des rois. Et on nous dit le matin vient. Oui, mais la nuit aussi, elle vient. Elle vient pour toutes ces personnes qui étaient les amis des dieux, mais qui ont choisi de rétrograder, d'abandonner la bonne voie et de suivre le chemin de Jéricho. Eh bien, toutes ces personnes-là, bien qu'étant amis de Jésus, ils vont rester. Ils ne vont pas partir, mais les temps qu'ils passeront ne sera pas des bons moments. Ils étaient des amis des dieux, comme le dit le livre de Jean 15, verset 15. La Bible le dit ceci. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Nous sommes les amis des dieux, parce que Dieu ne nous a rien caché. Nous sommes à Jérusalem, amis des dieux. Dieu nous a montré tout. Mais malheureusement, beaucoup de ses amis ont choisi le chemin de Jéricho, Jérusalem, et qui a quitté Jérusalem vers Jéricho. Et il lui arrivera, et en fait, il arrivera à beaucoup ce qui est arrivé à cet homme, à l'image de cette parabole de Jésus-Christ sur la parabole des noces, précisément versets 11 à 12.
Matthieu combien?
Matthieu chapitre 22, 11 à 12, où dans ce texte, il y eut un roi qui organisa un festin et qui fit appel en invitant les gens de pouvoir venir assister à cette manifestation. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, chacun donna ses raisons. Non, moi j'ai pas le temps. Moi je dois aller assister à mes histoires. Non, je viens de me marier, j'ai des affaires. J'ai tué mes veaux gras. Hein? Donc j'aurai pas le temps. C'est un peu ce que les gens disent aujourd'hui quand vous les appelez pour parler de la parole ou vous leur présenter Christ. Chacun a ses raisons. Non, excusez, je le ferai plus tard. Et même quand tu lis la parole, tu lis, tu sens que non, ça c'est le Seigneur qui me parle. Mais au-dedans de toi, tu dis, bon, je vais me convertir plus tard, que je finisse d'abord ça, après, sans s'inquiéter de l'invitation. Mais il y aura au moins de ceux qui vont entrer. Mais regardez au verset 11 et au verset 12. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami. En fait, si j'ai lu ces deux versets, c'est juste pour ces deux mots. Mon ami. Donc, celui-là aussi, auquel le roi va donner des reproches, c'est aussi l'ami du roi. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. La bouche fermée. Pourquoi la bouche fermée? Parce qu'en fait, après cette vie, par exemple, s'il arrivait qu'on mourait, mais notre conscience nous interpellera telle qu'elle nous rappellera, tu vois, tu mérites de vivre cette vie parce que tu étais l'ami des dieux, mais tu le faisais consciemment et expressément. Donc la conscience de chacun va reprocher à tout le monde, tel que chacun se rendra compte que, en tout cas, c'est ma faute. En tout cas, je sais que c'est ma faute. Hein? Chacun se mettra dans la même situation que l'homme riche et l'homme là et le pauvre Lazare. Cet homme là qui dans le lieu de tourment a dit au père Abraham de demander à Lazare de retourner dans la maison de son père pour les empêcher de venir le rejoindre lui dans le lieu de tourment. Parce que là, il était conscient que s'il s'était retrouvé là, c'est parce qu'il avait suivi sa propre voie. Eh bien, tous les méchants, mais aussi tous les chrétiens, tous les amis des dieux, qui n'auront pas avec eux un habit des noces, eh bien, toutes ces personnes-là se retrouveront loin du Seigneur, ayant la bouche fermée. Et les habits des noces, en fait, c'est quoi? C'est juste les œuvres justes des saints que nous présente la Bible dans Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. Je lis Apocalypse 19, 7 à 8. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. » Voilà. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Lorsqu'un juste marche dans la sainteté, il pratique les œuvres justes. Quand Dieu le regarde, il les considère vêtus et non nus. Es-tu vêtu, mon frère? Sommes-nous vêtus aux yeux de Dieu ou sommes-nous vêtus seulement aux yeux des hommes? Beaucoup sont vêtus seulement aux yeux des hommes, mais pour Dieu, ils sont nus. Ils ne sont pas vêtus. Mais Dieu veut que nous soyons vêtus. Dieu ne veut pas que nous soyons comme ceux de l'église de Laodicée. Toutes ces personnes-là qui ne sont pas vêtues, c'est-à-dire qui n'ont pas des œuvres justes, ce sont ces chrétiens qui ont décidé, étant sur la terre, de quitter Jérusalem et de descendre vers Jéricho. Apocalypse chapitre 3, on est au verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Je connais tes œuvres. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Toujours la même insistance. Nu, tu n'as pas d'habit. Tu te crois bien habillé avec des costumes. On t'envie par des jeunes filles parce que tu es beau, tu as toujours des beaux habits. Laisse que les anges puissent aussi t'envier. Laisse que le royaume puisse aussi dire, voilà un homme qui mérite. Voilà un homme qui mérite. Mais est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que le ciel aussi dit la même chose pour toi? Est-ce qu'en te regardant, le ciel dit aussi qu'en tout cas, ça c'est un homme. Il est bien habillé. En tout cas, ça c'est un homme qui mérite. Beaucoup, ils sont bien habillés aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, ils ne sont pas habillés. Ils sont nus. Ou même, je dirais, ils ont des habits sales. Mais ils servent Dieu. Ils ont quand même des habits sales. Comment expliquer ça? Mais c'est tout simplement parce que ils ont choisi de quitter Jérusalem et de descendre vers Jéricho. Zacharie chapitre 3, au verset 1er, on nous présente un autre serviteur de Dieu qui servait aussi Dieu, mais qui lui avait des habits très sales, des habits sales. Ils salissent leurs vêtements. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. » Encore Jérusalem. Il a choisi Jérusalem. Dieu n'a pas choisi Jéricho. Il a choisi Jérusalem. Restons à Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Regardez le verset 3. Or Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Donc Josué, en fait, si Satan, qu'on appelle l'accusateur de nos frères dans Apocalypse chapitre 12, eh bien, si on l'accusait par Satan, c'est parce que Satan avait vu que Josué était vêtu des vêtements sales. Combien de chrétiens aujourd'hui?
Qui est l'image du péché.
Oui. Oui, c'est bien souligné d'ailleurs au verset 4, on va continuer. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont des vêtements sales. Ils vont dans des églises, ils sont dans des temples.
Ils prêchent.
Ils prêchent, ils servent Dieu. Ils font beaucoup de choses. Mais aux yeux de Dieu, ils ont des habits sales. Et Satan les accuse. Et Dieu, il dit, non, que l'Éternel te réprime, Satan. Mais malheureusement, Josué, malgré qu'il a pu bénéficier de l'intervention de l'Éternel, mais malheureusement, il était couvert de vêtements sales et il s'éteignait debout devant l'ange. Et l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, ôtez-lui les vêtements sales. Parce que ce qui est important pour Dieu, c'est que Josué soit bien habillé. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, regardez ces vêtements sales. Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Je t'enlève ton iniquité. Maintenant, habille-toi convenablement avec des habits de fête. En fait, quand on parle de la fête, on fait allusion aux noces de l'agneau. On fait allusion aux habits du mariage. Quels sont ces habits? C'est-à-dire les œuvres justes des saints. Un peu pour dire, bon, je pardonne ton péché, tu es maintenant pur devant moi. Je pardonne ton péché maintenant, tu es quitte devant le mal, pour ce qui concerne le mal. Bien-aimé dans le Seigneur, revêtu un habit de noces, seront comme cet homme de Matthieu chapitre 22, où le Seigneur lui a dit, clairement, sans détour, dans le verset 11 de Matthieu 22, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. » Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. » En fait, ici, ça donne comme l'impression que il était quand même entré, après il est sorti. Ça, c'était juste un moyen de visser, ou je dirais, de faire en sorte que ça soit vraiment une vraie parabole pour beaucoup, qui peuvent se dire, bon, il y aura quand même de ceux qui vont entrer dans le royaume, et puis Dieu va les chasser. Non, c'est juste une façon de dire, beaucoup des amis de Dieu ne vont pas entrer. C'est-à-dire, ils ne vont pas vivre l'enlèvement. C'est pour cela que nous avons commencé par ce texte d'Ésaïe 21 pour dire, le matin vient, la nuit aussi. L'enlèvement vient, mais la nuit, c'est-à-dire la grande tribulation vient aussi. Elle vient, bien-aimé. Préparons-nous, prenons ces choses au sérieux, car beaucoup des amis de Dieu seront jetés dans les ténèbres du dehors. C'est-à-dire, ils ne vont pas être enlevés, ils vont rester dans ce monde qui sera vraiment ténébreux. Pourquoi disons-nous qu'il sera encore plus ténébreux? Parce qu'en fait, pour l'instant, c'est vrai, nous sommes dans la nuit, mais il y a une lumière qui brille. Cette lumière, on la retrouve dans l'Église. Cette lumière, ce sont les vrais chrétiens que Jésus-Christ à laquelle Jésus-Christ avait dit, disant, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Mais il viendra un temps où le Seigneur va prendre cette lumière. Alors là, il y aura des ténèbres du dehors, et il y aura des pleurs et des grincements dedans.
Pour ajouter à ce que tu dis, dans Matthieu 7, verset 21, Matthieu 7, verset 21, Jésus dit ceci, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? » Ce sont ceux qu'on peut considérer, ils se disent, ce sont eux aussi des amis de Dieu. Ils sont passés par les eaux du baptême, certainement aussi par le baptême du Saint-Esprit. D'autres prêchent la parole de Dieu. D'autres vont dans des églises dites chrétiennes. Mais leur style de vie est une vie de péché. Mais ils se disent, nous sommes aussi les amis de Dieu.
Amen.
Et cette parabole des noces s'applique aussi à ceux qui ont fait des miracles au nom de Jésus, ont prophétisé au nom de Jésus, ont fait de grandes choses au nom de Jésus. Mais ce ne sont pas des amis de Jésus, parce qu'ils vivent dans le péché. Et Jésus précise, c'est seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui peut être considéré comme étant mon ami.
Toutes ces personnes-là seront jetées dans les ténèbres du dehors. C'est-à-dire, toutes ces personnes-là ne seront pas enlevées Ils ne seront pas enlevés, ils vont rater l'enlèvement. D'où l'insistance de l'apôtre Paul. Et il est en train de supplier, on est dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 2 à 3. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Voilà, pour entrer dans ce royaume-là, il faut au moins que l'on soit trouvé comment ? Vêtu et non nu. Voilà, parce que si on est nu, nous serons jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Malheureusement, beaucoup seront nus, mais d'autres seront vêtus. Regardez Apocalypse chapitre 16 au verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Ça, c'est Jésus. Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Ça dit, celui qui veille, c'est celui qui est à Jérusalem. Il n'a pas décidé de descendre à Jéricho. Mais celui qui descend à Jéricho, en tout cas, il y a un problème. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. En fait, la honte, c'est quoi? C'est toutes les désobéissances que nous faisons. Alors Dieu voit, tout le monde voit, verra ce jour-là. La honte, voilà, cet homme, regardez ce qu'il faisait. Ah, c'est honteux. Parce qu'en fait, beaucoup de gens font des choses en secret, mon frère. Ils font des choses que personne... Mais ce jour-là, ah, c'est honteux.
Ça sera vu aux yeux et aux tous de tout le monde.
Ah,
voilà, impudicité.
Mais c'est pas vrai.
Mensonge.
Lui aussi.
Assassinat. Convoitise. Orgueil de la vie. Convoitise des yeux. Convoitise de la chair. Cupidité. Prostitution,
pornographie, vol, escroquerie,
idolâtrie,
calomnie, médisance. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa nudité, sa honte, je voulais dire. Bien-aimés, ayons nos vêtements blancs, ayons nos vêtements, c'est-à-dire les œuvres justes, pour éviter la grande tribulation, pour éviter de rater le matin, c'est-à-dire l'enlèvement. Car ceux qui vont rester dans la grande tribulation passeront des temps qui ne seront pas intéressants.
Et puis c'est logique, hein. Quelqu'un qui est éveillé, c'est celui qui verra le matin arriver.
Oui, qui verra l'étoile du matin même disparaître.
Tu vois, quand on passe la nuit au jour, quand tu dors, naturellement parlant, quand tu dors, tu ne vois pas le matin arriver.
Oui.
Tu es surpris par le matin.
Oui.
Mais quand tu veilles, tu es celui qui voit le matin arriver.
C'est ça. C'est vraiment ça. Tu as vraiment raison. Mais est-ce que tous veillent?
Nous devons tous veiller. Voilà la raison pour laquelle Dieu permet que vous écoutiez cette émission, pour que vous puissiez vous réveiller, vous examiner vous-même. Et si vous êtes endormi, en fait, vous êtes en train de descendre à Jéricho.
Toutes les fois où j'ai vu l'étoile du matin, c'était toujours avant 6 heures, ici à Kinshasa, hein, avant 6 heures. Mais il fallait se réveiller avant 6 heures. Hein, dans cette obscurité-là, pour voir la dernière étoile, l'étoile du matin. Parce que c'est pas ça, ça, c'est plus l'étoile de 23 heures, ni de minuit, de 1 heure. Ça, c'est de 5 heures. Cette étoile-là, ce sont seuls ceux-là qui veillent, qui voient cette étoile. Ce sera la même chose. Le Seigneur va apparaître, ceux-là qui seront en train de veiller. Ce sont ceux-là qui verront l'étoile.
Et d'attendre son avènement.
Oui, et le Seigneur insiste, disant à ses enfants, veillez et priez, car il viendra comme un voleur. Il viendra comme ça, comme un voleur. Mais il veut que ses enfants ne soient pas comme des gens qui sont en train de s'endormir. Le Seigneur a beaucoup insisté là-dessus, disant à ses enfants de veiller. Je lis par exemple ces versets. Matthieu 24, on est au verset 46. Je prends même le verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc. Ça c'est Jésus, ce n'est pas un homme. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Or, toi, tu es une maison. Moi, je suis une maison. C'est-à-dire, connaissant que mon corps est un temple, c'est une maison, je dois veiller pour empêcher que le mal ne vienne. En fait, ici, le Seigneur parle de son retour. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait. Il ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux cet serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Je vous le dis. Hein? Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec des ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où ne s'y attendait pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Ce sera difficile pour cet homme. En fait, je ne voudrais pas que ce soit ainsi pour vous. Veillons afin que nous ne puissions pas être jetés dehors, je voulais dire. Que Dieu vous bénisse.
Mon frère, ma sœur, Dieu vous parle, Dieu vous dit, veillez et continuez à rester son ami. Ne vous trompez pas vous-même. Notre prière est que ce message ne soit pas un message de condamnation, mais un message de réveil, où vous examinez votre propre vie, votre marche de tous les jours. Parce que ce qui est vrai, celui qui veille, c'est celui qui va voir le matin arriver. Amen. Celui qui est endormi va être surpris par le matin. Et Dieu ne veut pas que vous soyez surpris, parce qu'il nous considère, dans Ésaïe, il nous appelle, nous sommes des sentinelles. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui doit veiller. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui doit surveiller. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui doit voir l'aurore venir. Ce n'est pas le jour qui doit le surprendre. Ce n'est pas l'étoile du matin qui doit le surprendre, non. Je suis même tenté de dire, c'est lui qui doit surprendre l'étoile du matin, tout en disant, ah, l'étoile du matin est en train de venir. Voilà. Mon frère, ma sœur, le retour de Jésus-Christ ne doit pas vous surprendre. C'est vous-même qui devez surprendre même Jésus en disant, Seigneur, je t'attendais.
Amen.
Est-ce que c'est votre cas? Si ce n'est pas votre cas, baissez la tête dans la prière et demandez pardon en répétant ces simples mots après moi. Dites, Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai entendu ton message et je viens à toi. Je me suis endormi, je me suis assoupi et je te demande pardon. Pardon pour mon péché, pardon pour ma rébellion, pardon pour ma vie de désordre. Je me suis endormi et j'ai entendu ton message. Je suis réveillé maintenant. Purifie-moi avec le sang de Jésus-Christ. Lave-moi avec le sang de Jésus-Christ. Que ton Saint-Esprit me soutienne dans ma vie de tous les jours, afin que je reste éveillé et que je ne sois pas surpris ni par la mort, ni par le retour de Jésus-Christ. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, la parabole du Samaritain. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine, toujours aussi avec Jonathan Junior Mambou.
Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous conduise.
Amen.
Amen.
L'émission « Venez à Jésus » vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.